Le combat dans le Cid, il est raconté par Roderick. Hein, le combat contre les morts, M-O-R-E-S ou M-A-U-R-E-S, hein, contre les Arabes, il est raconté par Roderick. On ne le montre pas sur scène, alors que dans le théâtre, dans le drame romantique, bien entendu que on montrera, et dans le théâtre plus proche de nous, contemporain, on n'hésite pas au contraire à faire ferrailler les gens sur scène, à se battre à l'épée, avec le risque qu'on ne croit pas trop à la mort des gens, parce qu'on sait bien qu'on ne veut pas tuer deux ou trois comédiens par représentation, ça poserait des problèmes après. Donc cette règle, deuxième règle de la bienséance, et troisième règle, la vraisemblance. Hein, c'est à ça qu'on touchait ici. On ne doit présenter sur scène que des choses vraisemblables. C'est toujours dans la tragédie. Alors qu'est-ce qui serait invraisemblable? Et ben, on a parlé avec vos camarades du théâtre du Moyen-Âge. Le théâtre français au Moyen-Âge, d'abord se joue dans les églises, d'abord dans le chœur, c'est-à-dire tout au fond de l'église, puis au fur et à mesure que le théâtre va prendre un peu plus de liberté, on va finir par jouer devant l'église, sur le parvis. Et on joue essentiellement des miracles et des passions, c'est-à-dire des choses qui racontent la vie des saints ou la vie de Jésus. Et dans ce qui concerne l'invraisemblable ou le miraculeux, qu'on appelle le merveilleux chrétien, je pense au jeu de Saint-Nicolas, certains d'entre vous connaissent peut-être bien cette chanson de Saint-Nicolas. Hein, ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, il y a un boucher qui s'empare des gamins, qui les découpe en petits dés, qui les met au saloir. Là-dessus intervient... et la pièce était jouée le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas tous les ans, intervient Saint-Nicolas, qui arrive chez le boucher, et qui fait un miracle. C'est-à-dire, ouvre-moi ce saloir, et du saloir vont sortir les enfants ressuscités, en quelque sorte, hein, remis en entier. Bon, et bien ça, on ne l'aura pas, en principe, dans le théâtre du XVIIe siècle. Il va se débarrasser... des sujets religieux, bien qu'il y ait des pièces quand même religieuses, il y en a quand même au XVIIe siècle, mais pas dans lesquelles on représente des miracles. L'essentiel des pièces des tragédies, vous le savez, hein, on prend l'essentiel des sujets dans l'Antiquité, hein, chez les Grecs, chez les Romains. Par contre, alors, ces trois règles, elles vont être battues en brèche dans la comédie on a besoin d'amuser le public, donc on va avoir un peu plus de liberté. Et là, à la limite, je crois que il semble bien que Molière s'amuse en faisant ces entrées miraculeuses, en quelque sorte, du personnage qui arrive, hein, tiens, les voilà justement, hein, ou après, à propos des beaux-parents, ou après, tiens, le voilà justement, c'est le John le dragueur, on sait pas son nom, on n'a pas son nom en tête, on ne l'appelait surtout pas comme ça, on sait simplement que c'est un aristocrate, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est gentilhomme, donc ça veut dire l'aristocratie. Les autres indices de son aristocratie, c'est l'épée avec laquelle il menace. Alors, on joue un peu là-dessus, puisque ce n'est pas une épée tout court, c'est une canne épée, hein, avec laquelle il menace Dandin. Il y a un petit peu du duel dans l'air, mais il ne peut pas se battre en duel contre un paysan, même s'il est nouvellement appelé monsieur de la Dandinière pour l'anoblir, en se moquant de lui. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce nom du monsieur de la Dandinière? C'est comme Angélique, mais moi je dirais que c'est illustratif. C'est-à-dire à qui fait penser ce nom de Dandin, Alors ça, c'est très bien, hein, parfait. Mademoiselle. Alors, est-ce que je vais réussir à partir de ce que j'ai entendu? C'est Jade, hein? Voilà, dandin-dadon, très probablement. Et moi, j'irai aussi sur le verbe se dandiner. Se dandiner, c'est-à-dire qu'il passe d'un pied sur l'autre, comme le dindon, comme l'animal de basse-cour. C'est-à-dire que ce paysan, ben, il y a un mimétisme, il ressemble à ces animaux de basse-cour. Et on peut imaginer, d'abord, être presque sûr que c'est Molière qui jouait dandin à l'époque de Molière, et que Molière s'amenait comme ça, sur scène, en se dandinant, ce que n'a pas fait ici le comédien. On n'a pas voulu jouer là-dessus parce que, ben, déjà, le jeu des comédiens évolue sans arrêt et a évolué entre le XVIIe siècle et maintenant. Hein, on ne joue pas une pièce de théâtre maintenant comme on l'a joué à l'époque de Molière. Même si, dans ce qu'on a appelé la comédie, qu'on appelle toujours la comédie française, qu'on appelle aussi le lieu, la maison de Molière, on s'est évertué très longtemps, et aussi dans les films destinés aux élèves, on s'est évertué très longtemps à essayer de jouer le plus près possible de ce qu'on imagine, parce qu'on ne sait pas tout, hein, du théâtre de Molière, qu'on imagine que c'était joué à l'époque de Molière. Très longtemps, on a fait comme ça, mais disons qu'il y a plutôt à peu près maintenant, en 20 ans, on va dire un peu plus, on va situer ça aux alentours des années 60, hein, donc ça fait un certain temps, ça fait une cinquantaine d'années, hein, que on s'est libéré un peu de ce carcan, et c'est un peu plus récent en ce qui concerne la comédie française. On a pris des metteurs en scène, entre guillemets modernes, hein, qui essayent de nous jouer les comédies de Molière et le reste, de les mettre, entre guillemets aussi, au goût du jour, c'est-à-dire de moderniser la façon de jouer, etc. Donc voilà, on n'est plus esclave de ça. Ça, c'était à propos de Dandin de la Dandinière. Qu'est-ce qu'il reste à dire de la pièce? Qu'est-ce que vous voyez d'autre à dire? Comment? C'est-à-dire, dont on n'a pas parlé? Ah, alors c'était, je ne sais pas, moi j'ai pas identifié, cette espèce de lézard, c'est quoi? Ben, c'est un être bizarre, tout ce que je peux dire, hein, parce qu'il y a des moments où on le voit allongé près du mur, comme un lézard, hein, vraiment. Oui. Il y a de ça, hein, il est comme un petit animal, c'est quelqu'un qui ne parlera jamais. Là, il ouvre la porte. Enfin bon, comme ça, hein, il vient se mettre à côté et puis on ne tire pas compte de sa présence, hein, puisque il y a les deux personnages, c'est comme si j'étais seul. Hein, c'est un personnage qui est, voilà, c'est assez marrant, moi, je trouve bien. Je trouve ça intéressant. Mais qui ça?
Celle qui sonne à la fenêtre et qui...
Oui, alors, c'est mademoiselle.
Fuentes.
Je crois qu'on entend son nom. Non, c'est pas ça. C'est un prénom très ordinaire, très connu, très courant, un petit peu ancien par rapport à maintenant, hein, puisque tout le monde porte des noms de séries américaines ou... Bon. Vous voyez pas? Moi, il me semble que c'est Claudine. Hein, il me semble bien que c'est Claudine. Donc, prénom ordinaire de servante. On peut évoquer aussi son caractère.
J'aime bien la...
Bon, il y aurait d'autres choses à dire sur le prénom, mais là, je ne pense pas que ce soit indispensable. On vous parlera, au théâtre d'un type de personnage, on vous a déjà parlé peut-être, hein, d'un type de personnage qu'on appelle le valet de comédie. Est-ce que vous savez ce que c'est que le valet de comédie ? Eh bien, vous avez entendu parler au moins des fourberies de Scapin, peut-être. Hein, des fourberies de Scapin, personne ? Vous ne connaissez pas ? C'est celui qui arrive à faire bastonner Géronte en le faisant mettre dans un sac, etc., etc. Il ne prend pas la place de son maître, mais les caractéristiques de ce qu'on appelle le valet de comédie, c'est un meneur de jeu. Hein, c'est celui qui mène le jeu, c'est celui qui est plus astucieux que le maître, qui est plus malin que le maître. Hein, il se manifeste à la fois par sa verve, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup, et par son intelligence, par ses astuces. Les fourberies de Scapin, ça veut dire les tours qu'il joue, en quelque sorte, hein, les astuces, les trucs qu'il trouve. Hein. Donc, on met la ruse, hein, qu'on accorde à ce valet de comédie. Ce valet de comédie, il est bavard et rusé. Il est adroit, il est malin. On le verra aussi dans Le Barbier de Séville. Hein, Le Barbier de Séville, qu'on va retrouver dans la pièce d'après de Beaumarchais, qui est Le Mariage de Figaro. Figaro, voilà. Mais sauf que, moi je dirais que il est parfaitement, merci la mouche, il est parfaitement valet de comédie notre Figaro dans Le Barbier de Séville, parce qu'il va trouver les astuces pour permettre à son maître, le comte Almaviva, de conquérir Rosine, qui est prisonnière du méchant Bartolo, un vieux médecin qui veut à tout prix l'épouser. Le thème classique du théâtre, c'est un vieux machin qui récupère une orpheline, qui l'élève au grain jusqu'à ce qu'il puisse l'épouser, et puis se la fait souffler sous le nez, voir l'école des femmes. Hein, là c'est, comment elle s'appelle, Agnès, et le petit jeune homme s'appelle Horace, et bon, elle va très bien. Alors, donc je disais que Figaro, il est tout à fait astucieux et tout, il a toutes ses qualités dans Le Barbier de Séville. Par contre, dans Le Mariage de Figaro, c'est Suzon. C'est la femme, la future, hein, puisqu'il est question, il va se marier, Figaro. C'est Suzon qui est l'astucieuse. Suzon est la comtesse, c'est-à-dire Rosine de la première pièce, qui est devenue la comtesse, puisqu'elle a épousé le comte Almaviva. C'est ces deux femmes-là qui vont rouler les hommes, et en particulier le comte, qui comptait, lui, le comte, exercer son droit de cuissage sur la future femme de Figaro. C'est-à-dire que il a, le comte Almaviva, sur ses terres, aboli le droit de cuissage, princièrement, mais traîtreusement, il veut profiter du mariage de Suzon et de Figaro pour s'envoyer en l'air avec Suzon avant le mariage. Ce qui s'appelait autrefois le droit de cuissage, le droit qui était permis au seigneur sur les gens de son terroir. Il pouvait passer la première nuit avec la jeune épousée de ses subordonnés. Donc, pour revenir au valet de comédie, Figaro, il n'est pas très... Et vous le voyez dans le troisième texte, hein, vous avez un extrait de Figaro, hein, et vous voyez que là, il n'est pas très content de la façon dont Suzon... Alors, surtout, on est encore dans un quiproquo dans cette scène-là, c'est-à-dire qu'il croit que Suzon l'a trahi, mais en fait, non. Suzon, elle est en train de piéger le comte en se déguisant en comtesse, hein, et la comtesse s'est déguisée en Suzon, hein, dans cette scène de nuit, justement, propice au masque, au déguisement et au quiproquo. Donc il croit que Suzon l'a trahi, c'est pour ça qu'il y a ça, mais néanmoins, double énonciation, dans ce monologue de Figaro, on saura déjà qu'il y a de la part de Beaumarchais, eh bien, des piques qui sont lancées en direction du comportement des femmes en général. Hein? Même si Figaro se trompe et que Suzon en réalité est fidèle, etc., etc., hein, il y a quand même des piques qui sont lancées aux femmes traîtresses, etc., etc. Hein? Donc, un discours de Beaumarchais, mais qui n'est pas, contrairement peut-être au message politique qu'il y a dans le mariage de Figaro, qui n'est pas un discours novateur, hein, c'est-à-dire qui est un discours de machiste ou de représentant de commerce avant la lettre, hein, les hommes se plaignent des femmes, quoi. Bon. Voilà, et peut-être qu'on peut dire dans l'autre sens que les femmes se plaignent des hommes, on pourrait avoir le même thème développé à l'inverse. Bon, je crois qu'on a suffisamment bavardé. Je ne sais pas si ça sonne là ou dans 5 minutes, vous le savez, vous.
Ça sonne là.
Si ça sonne à moins 5, c'est à peu près bon.
Moins 5.
Alors, vous pouvez ranger. Et on se revoit demain à 1h, si je me rappelle bien. Oui.